La Banque du Canada a donc relevé d'un quart de point le taux directeur qui passe, Pierre-Yves, à 1,75.
Et c'est pas le point 25 le problème pour les emprunteurs, c'est les hausses successives. Tu sais, quelqu'un qui l'an dernier avait décidé de prendre un taux variable avait beaucoup moins qu'aujourd'hui en taux variable à payer. Et là, avec ce qui arrive hier, on peut encore négocier 5 ans variable qui démarrait à 2,65, 2,66. Avec ce qui arrive aujourd'hui, on va ajouter un autre 0,25, ce qui fait en sorte que même les gens sur le taux variable avec des bons taux de crédit, des bons dossiers de crédit, vont payer probablement 3% et plus parce que les banques aujourd'hui ont augmenté leur taux préférentiel de 3,7 à 3,95. Ça fait quoi? Ça, c'est le taux sur lequel les banques se basent pour établir votre prêt à vous. Donc, si vous êtes plus risqué, vous allez payer ce qu'on appelle le prime, donc le préférentiel plus 1, plus 2. Et si vous êtes pas risqué, vous pouvez avoir prime moins 0,5, moins 1. Donc, ça change votre capacité en plus dépendant de votre dossier. Donc, plus vous êtes à risque, plus vous payez cher. Et c'est intéressant de voir l'impact qu'il y aura sur nos prêts personnels, sur nos marges de crédit et surtout sur la marge de crédit hypothécaire. Beaucoup de Québécois sont attirés par ces marges tout en un, les marges de crédit hypothécaire empruntées sur la maison à taux variable et il y aura évidemment un impact là-dessus. C'est quelques dollars par mois, mais c'est le cumul des hausses, le problème éventuellement, et la capacité de paiement. Donc, on se dit, eh mon Dieu, pendant la crise aux États-Unis, on était descendu à un taux directeur de 0,25. Là, on était à 2,25 et le Canada veut augmenter pour rattraper un peu ça et surtout se maintenir dans la fourchette d'inflation de 1 à 3%. Mais chose certaine, le rabais, le prêt pas cher, l'emprunt qui est pratiquement donné, c'est chose du passé. Maintenant, on revoit. Hein? Donc, est-ce que Paul, tu suis ça, toi, dans tes prêts, les taux que tu payes?
Bien
la plupart des Québécois.
Bien sûr. Et moi, je m'attendais. Évidemment, on savait que ça allait repartir à la hausse, comme tu dis, des prêts à zéro ou quoi que ce soit. Il y a encore des... Par exemple, tu achètes une voiture, il y a encore des compagnies qui te proposent 0% d'intérêt. Évidemment, il faut que tu ailles lire les petits caractères en bas. Mais moi, j'ai l'impression que cette époque-là est révolue.
Mais le 0% va rester parce que, dans le fond, les concessionnaires ont fait un choix. Le choix est le suivant. Ils ont dit, nous allons vendre la voiture plus chère qu'on pourrait la vendre normalement.
Ouais.
On va intégrer un 1000 ou un 2000 $ d'intérêt perçu d'avance dans la voiture. Mm-hmm. On va le constater aux états financiers comme du revenu d'intérêt selon les normes comptables. Mais on va dire à notre client, tu payes 0% sur 25 000. Le client dit, non, on paye vraiment 0% parce que si on paye comptant, on nous donne pas de rabais.
Ouais.
Ça, c'est un choix que les concessionnaires ont fait parce qu'ils disent, la majorité sont à crédit de toute façon. Ceux qui paieront comptant seront pénalisés ou auront des petits cadeaux, mais on va leur faire croire que c'est un vrai 0%. La réalité, c'est que légalement, ça n'existe pas. La preuve, la compagnie se finance en fonction des taux sur les marchés qui sont plus hauts que 0%. C'est pas un cadeau qu'on vous fait. Vous le payez dans le prix de la voiture.
Exactement.
Et je m'obstine avec des gens.
Mais
c'est dur. Parce que dans les états financiers de Ford ou peu importe lesquels, c'est très, très clair. C'est écrit noir sur blanc. Le client paye de l'intérêt d'avance dans le prix de la voiture.
Oui.
Point barre.
Oui, oui.
Et on continue à dire 0%. Ça devrait être illégal de faire de la pub à 0%. Et
oui, c'est vrai. Incertitude liée au taux d'intérêt, très certainement, mais aussi l'actualité aux États-Unis avec ces histoires de colis suspects, d'engins explosifs. En tout cas, ça a été une très mauvaise journée en bourse à New York.
Mais là, c'est plus juste une mauvaise journée. On est rendu à plusieurs mauvaises journées. Et l'incertitude, c'est fou parce que maintenant, ce qui change avec il y a 10, 15, 20 ans, c'est la réaction des gens. Souvent, oui, on des courtiers, oui, on des conseillers, mais aussi des gens qui transigent eux-mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui sont réactifs. Donc, il y a des gens qui disent, écoutez, la bourse ne se rendit pas compliquée. Quand on dépasse les attentes, les gens achètent. Quand on a une mauvaise nouvelle, les gens vendent. Peu importe l'analyse fondamentale, peu importe le temps, les gens y vont sur comment ils pensent que la bourse va réagir. Et encore aujourd'hui, le S&P, plus que 2% de pertes aux États-Unis. Sur depuis le début de l'année, là, on est rendu à zéro. On est à presque à zéro de rendement, donc on n'a pas fait d'argent sur le S&P 500 depuis le 1er janvier. On a monté dans l'année, mais on a redescendu, et là, on est rendu à peu près au point de départ. Et si vous allez voir le TSX, c'est pire. Oui, on a encore perdu plus de 2%, mais ce qui est fou, c'est qu'on a vécu cette année, là, on a vécu des 16 000 points, et là, on était à moins de 15 000. Et au début de l'année, on était quand même en haut de 15 300 points, et là, on est rendu en bas de 15 000. Donc, le TSX, même si ça avait un portefeuille équilibré en TSX cette année, donc l'indice canadien favori, dites-vous une chose, vous allez perdre de l'argent jusqu'à maintenant. Faire attention. Un portefeuille diversifié, Paul, ça donne quand même moins de volatilité, hein? Parce que les bêtas, là, les correspondances à la bourse, ils sont opposés parfois dans des titres, donc ça s'annule. Donc, il y a moins de volatilité. Mais en demeure pour moi que c'est comme ça. Et si tu vas dans le Nasdaq, bien évidemment, les titres technologiques ont super mal réagi aujourd'hui. Donc, si vous avez des titres comme Facebook, Apple et Netflix, vous avez perdu plusieurs points de pourcentage simplement parce que lorsque ça va mal, on sort des titres technologiques et ça fait peur aux gens.
Il nous reste très peu de temps quand même. Ouais. Le dernier sujet est intéressant. Le refuge de l'investisseur, l'horizon de placement.
Et c'est ça, Paul. Je peux pas dire aux gens de se réfugier dans l'immobilier. Les taux d'intérêt montent. Donc, l'immobilier va être moins accessible pour des gens. Donc, les prix ne seront plus dans des hausses spectaculaires. On peut pas dire non plus aux gens, réfugiez-vous dans la bourse, regardez ce qui se passe. Donc, le seul refuge intellectuel qui nous reste, c'est pas le REER, le CELI, peu importe, c'est le refuge de l'horizon. C'est de se dire, à moins que vous ayez des placements à risque et que vous soyez à 60-65 ans, l'horizon vous donnera raison, que vous soyez en immobilier ou dans la bourse, visez l'horizon, pensez à l'horizon, pensez au loin, pensez à la Terre qui tourne. Donc, votre objectif est tellement loin que les volatilités d'aujourd'hui seront demain bien éphémères par rapport à ce qu'on a vécu.
C'est beau, hein? Surtout c'est venant beau. De la part d'un jeune homme comme toi.
Hein? Paul, j'ai presque 39 ans, là. Ben, j'ai 40 ans, presque.
Oui, mais c'est pour ça. Je te dis, t'es encore un jeune homme qui regarde à l'horizon.
J'aime ça que tu dis ça, Paul. Ça me donne confiance à mes rides.
Salut, Anne.
Salut.